Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Maître Frédéric Kwamba. Il est membre de la société civile et il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Il est également membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel. Bonjour Maître Frédéric Kwamba.
Bonjour Monsieur Dimapé, bonjour à tous les auditeurs.
Elle, c'est Élisée Odia, elle est journaliste indépendante, elle n'est pas encore là, elle va nous rejoindre. Et en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis, Abdourahman Dia, il est journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. Bonjour Abdourahman Dia.
Bonjour Guy et bonjour à tous.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de cette journée d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Maître Frédéric Kwamba. Il est membre de la société civile, il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Il est également membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel. Et en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis, Abdourahman Dia, il est journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. Et Élisée Odia, qui est journaliste indépendante, qui n'est pas encore là, elle va nous rejoindre. Au menu de cette émission, accord de cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda, commémoration du génocide des Congolais, c'est vendredi 2 août, et enfin, révélation de l'ONG Le Congo n'est pas à vendre sur une dizaine de cas de corruption recensés entre janvier et juin dernier en RDC et ayant coûté au trésor public environ 1 milliard de dollars américains. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la célébration de la journée des parents ce jeudi 1er août. En effet, l'abbé Gelor Mindela Bungu, professeur à la faculté de théologie de l'Université catholique du Congo à Kinshasa, a appelé les enfants à honorer leurs parents. C'était mercredi 31 juillet. Il a lancé cet appel en marge de la journée mondiale des parents vivants et morts célébrée le 1er août de chaque année. Ce prélat catholique a fait savoir que la célébration de la fête des parents a un sens profond. Pour lui, cette journée commémorative permet de reconnaître la place et les rôles importants des parents dans la vie de chacun et de saluer leurs sacrifices pour l'essor de la société. Maître Frédéric Kwamba, célébration de la journée mondiale des parents vivants et morts, qu'est-ce que la célébration de cette journée vous inspire ?
Oui, ce que j'ai comme inspiration, c'est le rôle des parents, le vrai rôle, qui est d'abord le fait de continuer l'œuvre de la création, parce que les parents sont parents parce qu'ils ont des enfants, ils ont des enfants directs, neveux, ainsi de suite, ou nièces. Et des deux, ce sont les parents qui sont là pour assurer l'éducation des enfants, comme toutes les sociétés du monde, nous savons que l'avenir, ce sont les enfants qui naissent et qui grandissent. Et si un pays veut se développer, il ne peut que miser sur sa jeunesse. Et dans un pays comme le nôtre, le rôle des parents est mis à mal et très difficile, surtout au niveau de l'éducation, c'est ce que je dis, parce que nous n'avons même pas un plan, un programme national ou une politique nationale, comme on peut dire. Que nous tâtonnons, ça fait des années, les lois sur l'éducation nationale sont peut-être respectées en partie, peut-être le 1/10 ou le 2/10, donc tout ça, les parents n'ont fait que pour continuer à porter le poids que l'État devait peut-être alléger. Et nous avons tenté avec la gratuité de l'enseignement. Vous savez vous-même qu'avec la gratuité de l'enseignement, qui était un très bon projet, et les difficultés sont que ceux-là qui doivent donner cette éducation ou enseigner gratuitement sont en difficulté et pas touchés sur la qualité de la formation.
Voilà, vous l'avez presque évoqué, Maître Frédéric Kwamba. Quand on parle des parents, on voit cette personne qui constitue les piliers de la famille, cette personne qui assure la protection et consent d'énormes sacrifices pour la survie, n'est-ce pas, de sa famille. Et cependant, les conditions socio-économiques du pays, la RDC, depuis plusieurs années, ont réduit sensiblement, n'est-ce pas, la portée de l'autorité parentale. Et ces conditions n'ont pas permis aux parents d'assumer comme il se doit leurs responsabilités. Et à votre avis, la célébration de cette journée ne devrait-elle pas constituer une occasion pour justement méditer sur la condition des parents en RDC?
Oui, évidemment, chaque commémoration doit appeler à des réflexions. Et qui doit vraiment réfléchir? Ce sont toutes les forces vives du pays. Il faut voir d'où est-ce que nous venons, où sommes-nous et où voulons-nous aller réellement. Ce sont des réflexions pareilles qu'il faut organiser chaque 1er août pour que chaque personne essaye peut-être de présenter une vision, mais tirée du vécu. Aujourd'hui, cette journée n'a plus son vrai sens parce que nous nous limitons à penser aux parents morts. Mais que faisons-nous pour les parents qui sont encore en vie par rapport à leur rôle? Parce que ceux qui sont morts, on va penser à leur combat, ce qu'ils ont réalisé. Mais pour les parents vivants, qui sait ce que nous devons pour améliorer la situation des parents? Qui dit un mot sur comment encadrer? Parce que tous les parents ne sont pas parents bons. Il y a des parents qui réussissent à se battre pour leurs enfants. Il y en a qui ne réussissent pas. Et ceux qui ne réussissent pas, tantôt c'est lié à leur manière de vivre ou à leur agissement. Et parfois, c'est l'État ou l'employeur des parents, de manière générale, qui ne parvient pas à permettre à ses parents de s'assumer. Et il y a une grande facilité dans l'encadrement des enfants que l'État donne. Parce que les enfants que nous mettons au monde, c'est vrai, ce sont nos enfants, mais ce sont des sujets de l'État congolais. Et c'est l'État congolais qui doit savoir comment ces sujets doivent grandir et mettre à la disposition des encadreurs directs, qui sont les parents, les moyens suffisants pour encadrer cette jeunesse avant d'arriver à l'école. Les enfants commencent en famille. Et les parents continuent à accompagner ces enfants, même quand ils vont à l'école, jusqu'à ce que ces enfants deviennent utiles. Donc, ce sont des grandes journées, des grandes réflexions dans les universités, normalement dans les écoles, dans les églises, comme vous nous avez parlé du prêtre qui a émis une pensée par rapport à ce que lui comprend cette journée. Donc, c'est ça mon souhait que l'on revient à ce genre de valeurs, et nous savons que c'est le président Mobutu qui avait institué cette journée, et vous vous souvenez très bien qu'à l'époque de Mobutu, ce n'était pas une petite journée, c'était une grande journée.
Merci Abdourahmane Dia de Washington, d'où vous intervenez. Quel regard avez-vous de la célébration de la journée des parents?
Alors, merci Guy. Je pense que c'est une très bonne idée d'instituer une journée pareille, surtout dans le contexte actuel où, disons, la société est un peu sous attaque, si je peux le dire ainsi, du fait de la modernité, des réseaux sociaux, etc. Mais je pense qu'il est important qu'on s'enracine avec nos valeurs pour pouvoir servir d'exemple et d'être des modèles pour les enfants. De plus en plus, on parle de famille nucléaire, le papa, le maman, et dans beaucoup de cas aussi, on parle de parents célibataires qui élèvent seuls leurs enfants, et ça a un impact sur comment ces enfants voient leurs parents. Si je prends l'exemple du Sénégal, qui est mon pays d'origine, qui est un pays très religieux, mais le taux de divorce aujourd'hui explose. Et bon, ce n'est pas tant le fait qu'il y ait des divorces, mais c'est le fait peut-être de pousser les parents, même s'ils ne sont plus ensemble, à être présent dans la vie de l'enfant. Je pense que c'est important, ça aide cet enfant aussi à avoir un regard positif sur ses parents, en grandissant, et je pense que c'est important que l'appel vienne des religieux, notamment l'abbé Bongo. La religion doit continuer à avoir un rôle important à pousser les parents à éduquer les enfants et à leur donner une image positive de la société, et parce que les enfants, pour qu'ils puissent participer au développement d'un pays, l'éducation commence d'abord à la maison et après passe par l'école, l'État, etc. Mais ça commence à la maison. Donc je pense qu'il est toujours important de célébrer ses parents, mais aussi de leur rappeler leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants.
Merci, on prend une petite pause avec famille de Lokwa Kanza et on revient juste après.
Zana bomo Tangu makasi zana nzoto Yevisa famito linga kabangu Ibo sobawa Yevisa boyoyo kumisakae Kisalo lango na yo Kozelate iba kufao Simo ya kutandamu solo Kose la teba kumana bokono La kisalo langu na yo Oh, oh,
yo, 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 yo
Yeah, 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 yeah
Yo, 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 yo
Tango za na bomo La kisabango mutindo kani Yolinga kabango Yolina kamutema Baoyo pete la katolo Yebisa bango boye
Jimukunda nga bikolame
Oh,
nakupenda Mumezo lange Fami, nalingi bino
Kozela teba kumana bokono Pola kisalo lango na yo Kose la teba awa Sima otanda wolo nalilita Nyango wana lelo
Yebisa bango boye Chimukuna nabikola be
Oh yo ye ye
Mila ngakasyo tome
kina Ayo
Mumezo lange Fami nalingi bino Chimukuna nabikola be Nakupenda
C'était famille, cette chanson de Pascal Lokwa Kanza qui interpelle sur l'impérieuse nécessité pour les enfants d'honorer leurs parents. On revient à l'actualité de cette semaine, la deuxième réunion ministérielle sur la situation des paix et des sécurités dans l'Est de la République démocratique du Congo, tenue mardi 30 juillet à Luanda, a convenu d'un cessez-le-feu à compter des minuit du 4 août. La réunion présidée par le ministre des Relations extérieures de l'Angola, Tete Antonio, a réuni autour de la même table les ministres des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, et du Rwanda, Olivier Jean-Patrick Ndahungireye, rapporte l'agence congolaise des presses. Selon le communiqué final de la réunion, et ce seul effet sera supervisé par le mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Et avant le début des négociations, les délégations ont été reçues par le président de la République d'Angola, João Lourenço, médiateur mandaté par l'Union africaine pour le processus de paix en RDC. La réunion du mardi faisait suite à la session ministérielle du 21 mars 2024, au cours de laquelle les délégations des trois pays ont conclu qu'il est impérieux de parvenir à une paix durable dans l'Est de la RDC, d'améliorer le développement économique et le bien-être social des communautés de ces pays voisins et la sous-région des Grands Lacs. Ces initiatives visent à encourager les dialogues au plus haut niveau et à rétablir un environnement de confiance entre les deux parties pour éviter que la crise politique actuelle ne se transforme en un conflit régional. Abdourahmane Dia, vous êtes journaliste à La Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. Vous avez souhaité analyser cette actualité relative à cet accord de cesser le feu entre le Rwanda et la RDC. On vous écoute.
Alors, c'est à notre niveau, en tout cas, l'un des grands sujets de la semaine. L'accord entre la RDC et le Rwanda concernant le conflit dans l'Est, notamment le conflit avec le M23, est intéressant dans le sens où c'est plutôt les deux États qui ont signé cet accord. Et on n'a pas trop parlé du M23, donc la question qui se pose, pourquoi le Rwanda et la RDC, et où se trouve le M23 dans tout cela? Et ça pose évidemment le débat sur le Rwanda est-il derrière le M23 ou pas. Nos collègues du service Kenya-Rwanda ont parlé au ministre rwandais des Affaires étrangères qui, lui, quand ils lui ont posé la question à savoir quelles sont les chances de réussite de cet accord si le M23 n'est pas là, sa réponse était que ça concernait directement les deux États sur la situation globale dans l'Est. Ma compréhension est que le mécanisme ad hoc sous médiation angolaise parle bel et bien du M23. Donc c'est un débat. Il y a aussi le processus de Nairobi qui est différent. Bon, la position rwandaise est que ce qui se passe dans l'Est de la RDC a un intérêt pour le Rwanda, pour sa sécurité et tout cela. Mais à mon niveau, l'intérêt c'est de voir pourquoi le M23 n'était pas là, mais c'est plutôt le Rwanda et la RDC qu'on a vu. Je pense que c'est intéressant. Maintenant, l'accord lui-même entre en vigueur le 4, après la trêve qui a été annoncée il y a quelques semaines, la trêve humanitaire, qui d'ailleurs a été violée à quelques reprises, je crois. Donc, ça pose un peu la question de l'implication présumée ou l'implication ou non d'autres pays dans ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Et je pense que tant que les gens ne sont pas arrivés au même niveau de compréhension, je pense que ce sera compliqué de régler la situation dans l'Est de la RDC. Et je pense que ça paraît de plus en plus évident qu'il y a d'autres pays, peut-être, qui interviennent de manière directe ou indirecte dans la situation dans l'Est de la RDC. Et effectivement, pour trouver une solution globale, il est important d'impliquer tout le monde, y compris donc le Rwanda. Donc, moi, c'est un peu ce que je voyais, c'est vraiment pourquoi c'est le Rwanda et pas le M23. Ça aurait été intéressant de continuer cette discussion.
Abdourahmane Dia, la mise à l'écart de l'AFC M23 n'est-elle pas liée au souci, n'est-ce pas, de faciliter l'éventualité d'une rencontre au sommet entre les deux chefs d'État? Parce qu'on se rappelle que le président congolais a toujours dit qu'il n'a pas négocié avec le M23, étant donné que le M23 est une simple étiquette et que les véritables belligérants, c'est plutôt le gouvernement rwandais.
Je pense qu'à un moment dans le processus, il sera important qu'effectivement une rencontre au plus haut niveau entre les deux pays puisse avoir lieu. Et si cela peut aider à déposer les armes, je pense pourquoi pas. Et si, effectivement, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais si cet accord un peu aide à avoir les deux pays discuter directement au niveau des chefs d'État, moi je dis peut-être tant mieux si cela peut aider à résoudre la crise. Je pense qu'à un moment il faut aller vers cela. Où se trouve le blocage, je ne sais pas, mais je pense que ce serait intéressant d'avoir une rencontre au plus haut niveau entre les deux chefs d'État.
Merci Élisée Odia, bonjour.
Bonjour.
On n'a pas eu le temps de se saluer parce que les téléphones posaient problème. Et je rappelle que vous êtes journaliste indépendante. Que répondez-vous à cette opinion selon laquelle si cesser le feu n'aboutit pas rapidement au règlement du conflit dans l'est du pays, il pourrait consacrer la partition des fêtes de la RDC?
Bon, déjà, je salue tous les auditeurs de la Radio Capi. C'est vrai que c'est aussi, vous savez que la RDC, je crois qu'on va en parler tout à l'heure, a commémoré aujourd'hui le génocide. Donc, je suis à Kisangani, je courais l'activité. Donc, c'était quand même un peu difficile de pouvoir intervenir dès l'entame de cette émission. par rapport à ce qui s'est passé à Luanda, moi, j'ai envie de dire que c'est une reconnaissance tacite du Rwanda de son implication dans ce qui se passe en République démocratique du Congo, une reconnaissance de plus, non seulement du Rwanda lui-même en tant qu'État, mais également de la communauté internationale, qui, vous avez certainement vu les communiqués, que ce soit des États-Unis, que ce soit des Nations Unies, ou en tout cas de la communauté internationale, tous semblent être impliqués, tous saluent ce qu'on appelle cesser le feu. Donc, il faut à un certain moment qu'on arrête avec la langue de bois. Il faut que tout le monde, à l'instar, ça ne vient pas de moi. Vous savez qu'il y a beaucoup de rapports onusiens qui parlent de l'implication du Rwanda, beaucoup de rapports des Américains, la communauté internationale qui parlent de Rwanda qui est impliqué, qui ne serait même pas impliqué, qui est impliqué, qui soutient le M23, qui soutient l'AFC. Donc à un certain moment, on doit quitter ce monde-là où on essaie de prendre des pincettes pour essayer de désigner l'agresseur de la RDC. Moi, je comprends, peut-être qu'on peut avoir un certain nombre de désirs, mais face à des évidences, devant les faits, on se plie. Et aujourd'hui, les faits sont là. Pourquoi il n'y a pas eu le M23? Parce que le M23 n'a rien à faire dans ces négociations, parce que le M23 n'est qu'une sorte de paravent de Rwanda. Pourquoi il n'y a pas eu l'AFC? C'est pareil. Donc, aujourd'hui, faut pas avoir honte, tout le monde est d'accord. Déjà, ça c'est un point pour dire que l'agression ou la guerre dans la partie est du pays est soutenue, financée, appuyée et est menée par le Rwanda. Toute la communauté internationale le reconnaît. Alors, quand on dit que ça va amener, non, moi, c'est vrai, je parle en tant que journaliste, mais aussi en tant que Congolaise. Moi, je crois en la forte capacité des Congolaises, à la résilience des Congolais de ne pas laisser le pays se diviser. Ça se diviserait. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite communauté, entre guillemets, en tout cas si on en croit le Rwanda, qui estimerait que ils sont pas assez protégés. Non, je crois que c'est un problème. Si c'est vraiment ça le problème, c'est un problème congolo-congolais. Et on a toujours résolu nos problèmes et il y a moyen de résoudre ce problème-là sans une intervention d'un pays extérieur comme le Rwanda. Donc la partition du pays, moi je n'y crois pas pour la simple bonne raison que j'ai foi, surtout à la population congolaise, je crois en cette détermination des Congolais de vivre unis et ensemble et ce pour toujours. Donc aucune agression. Si hier, on parle du M23 aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier, on en parlera peut-être tout à l'heure, que c'est depuis plus de 3 décennies que la RDC fait face à cette agression venue soit du Rwanda, tantôt de l'Ouganda aussi, donc un peu de beaucoup de pays de la sous-région, mais ça n'a jamais réussi à nous diviser. C'est pas aujourd'hui qu'on sera divisé, c'est pas aujourd'hui qu'on parlera de la partition de la RDC, parce que son peuple, sa population est déterminée à rester unis et ensemble. Pour le reste, je me dis qu'il faut que nous aussi, en tant que journalistes, puissions, en tout cas, ne plus avoir cette langue de bois, commencer à dire que, au regard du rapport, au regard des faits, au regard de tout ce qui se passe avec la communauté internationale, et qu'aujourd'hui, il ne faut plus parler du M23, il ne faut plus parler de l'AFC, il faut plutôt parler, désormais commencer à parler d'une agression rwandaise de plus en plus avérée et affirmée.
Merci, Maître Frédéric Kwamba, vous êtes membre de la société civile, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Gombe, vous êtes également membre du conseil d'administration de l'ONG Afiamama Asbel. Et nous l'avons dit ici que cette initiative vise à encourager les dialogues au plus haut niveau, mais aussi longtemps qu'on fera face à ces statu quo sur le terrain, vous pensez que la partie congolaise pourrait-elle être prête, n'est-ce pas, à un dialogue, alors qu'elle a toujours conditionné tout dialogue au sommet par le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais?
Moi, je pense que les meilleures solutions pour mettre fin à des grands conflits, c'est le dialogue. Mais la question qui se pose ici, c'est avec qui dialoguer, parce que la position de la RDC, c'est on peut dialoguer avec les Rwandais et non avec les M23. Et signature d'un accord de cessez-le-feu. Alors, cette signature de cessez-le-feu soulève des questions importantes à tel point que nous doutons de si ça ira ou ça n'ira pas. Il y a à peu près 3 décennies qu'il y a eu des accords signés et non respectés. Donc des accords rompus de temps en temps, on se convient, on signe, par rapport, on se rend compte que ce qu'on a signé, ce n'est pas ça, il fallait retrouver qui était réellement derrière, avec qui on pouvait négocier, avec qui on pouvait parler, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le Rwanda est présent au Congo et que le Rwanda fait partie des agresseurs. C'est une information importante qui a poussé à ces accords. Mais les deux inquiétudes que j'ai personnellement, premièrement, ça dit qu'il y a eu plusieurs cessez-le-feu. Même la dernière trêve ici n'a pas été respectée. Donc, devant des personnes ou des pays ou des États ou des groupes qui ont tendance à signer des accords et qu'au finish, à les rompre ou à ne pas les respecter, il y a soit une partie qui n'est pas sérieuse dans ses engagements, soit toutes les parties ne sont pas sérieuses parce qu'on ne peut pas revenir sur le terme accord et nous sentons toujours que ça ne va jamais avancer. Deuxièmement, notre inquiétude, c'est pourquoi avons-nous choisi le Rwanda? Et c'est parce que le Rwanda a le pouvoir de donner des injonctions au M23, d'imposer au M23 d'arrêter. Alors, si le Rwanda est en mesure de le faire, avons-nous connaissance des accords entre le Rwanda et le M23? Nous n'en avons pas, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils se sont convenus. Ça devient difficile de penser que le Rwanda peut, uniquement parce qu'il a parlé avec nous, imposer aux autres avec qui ils ont d'autres accords que nous, jusqu'à présent, nous ne connaissons pas. Les vraies raisons avancées par le Rwanda ne tiennent pas debout, de dire que c'est pour sa propre sécurité, ça ne tient pas debout parce que il n'y a pas eu de flèches de la RDC vers le Rwanda, ce sont des flèches du Rwanda vers la RDC, donc celui qui a intérêt à protéger son sol, à se protéger, c'est la RDC. Pourquoi le Rwanda, alors que sur notre sol, il n'y a pas que le Rwanda, en termes d'État, il y a les Ougandais qui sont chez nous, et c'est connu. En son temps, on parlait aussi du Burundi, à un moment, on n'en parle plus. Est-ce que nous n'avons plus de problèmes contre ces États-là, avec lesquels il fallait également parler, si nous cherchons réellement la paix, si ces États-là sont réellement en train de soutenir des rebelles qui tuent et qui pillent chez nous? Si ils peuvent le faire, pourquoi avons-nous choisi seulement le Rwanda? C'est ce que moi, je me doute, et je crains que ce soit une bonne solution si nous devons parler de dialogue. Donc la RDC doit avancer et parler avec tous ceux-là qui sont sur notre sol. Parce que chacun a son agenda. Il y a des agendas connus dans notre pays et d'autres que nous ne connaissons même pas. Nous ne voulons pas arrêter une guerre et réveiller une autre qui va commencer demain, qui est dans les tiroirs des gens. Donc nous voulons que s'il faut trouver une solution, que la solution soit réellement trouvée, mais à travers les échanges, les dialogues. S'il y a des conflits entre Congolais, que l'on se parle entre nous, si ce sont des conflits contre d'autres États, que l'on parle avec quiconque a des intérêts à défendre, des intérêts positifs comme négatifs. Donc la RDC doit prendre le courage de parler et d'échanger avec tous ceux-là qui menacent le pays.
Merci.
Et par le dialogue, moi je pense que nous aurons à atterrir par une paix plus durable que si nous allons toujours dans le sens des armes, si c'est les feux trêves, armes, si c'est les feux trêves.
Merci. Merci, chers auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Comme vous le savez, le musicien Reddy Amissi, l'une des meilleures voix de la musique congolaise moderne, va se produire en France dans la salle Bataclan les 2 novembre prochains. On va écouter l'une de ses chansons intitulée Yves Makamou et on revient juste après.
Kenda po pasi le kiawa nani ako yambelanga
Regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire au sujet de la célébration de la journée des parents ce jeudi 1er août. Nous avons également analysé l'accord de cesser le feu entre la RDC et le Rwanda. Participe à cette émission, Madame Élisée Odia, elle est journaliste indépendante. Maître Frédéric Kwamba, il est membre de la société civile, il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe, il est également membre du conseil d'administration de l'ONG Afiamama Asbel. Et en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis, Abdourahman Dia, il est journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. Dans la province de la Tchopo, la célébration du 10e anniversaire du génocide des Congolais s'est déroulée ce vendredi 10 août à l'esplanade de la mairie de Kisangani. La cérémonie a été présidée par la première ministre Judith Suminwa, représentante personnelle du président de la République, en présence de plusieurs personnalités, dont les gouverneurs des provinces et Bruno Lemarquis, le chef ad intérim de la MONUSCO. Et à Goma, trois activités ont marqué la commémoration du génocide. La cérémonie a été organisée par l'autorité provinciale en collaboration avec le FONAREV, qui est le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. C'est notamment l'enterrement des dernières victimes des bombardements des rebelles du M23. Les villes de Beni, Bunia, Bukavu, Mbujimayi et Lubumbashi ont aussi organisé des activités à l'occasion de la commémoration du génocide. Madame Élisée Odia, vous avez souhaité nous parler de la commémoration du génocide congolais. On vous écoute.
Je voulais parler de ce sujet déjà parce que c'est la 10e année qu'on commémore, ou que la RDC commémore ce génocide. Je voulais parler de ça encore aussi parce que je me suis dit, ça y est, on commence, il y a une conscience nationale qui est en train de se créer. Une façon pour l'État congolais, la nation congolaise, de se dire qu'on ne va pas oublier les victimes et qu'on ne va pas se taire, mais également une façon de reconstituer, de créer la mémoire collective nationale ici en République démocratique du Congo puisse rester en éveil. Mais également, ce 2 août, on nous rappelle également qu'il y a toujours une bonne partie de notre pays qui est en proie à des violences de tous ordres, sexistes, sexuelles, violences physiques, et que c'est une façon pour nous, les Congolais qui n'habitons par exemple pas à l'est du pays, de nous dire, écoutez, il y a une partie des Congolais qui souffrent. Mais également pour moi, le 2 août, c'est une année, c'est un jour, c'est une date chargée d'histoire pour la République démocratique du Congo, parce que le 2 août, c'est le jour où il y a eu la rébellion, une nouvelle rébellion du RCD qui a commencé, qui était jadis hier les alliés de Mouzé et Désiré Kabila, et ensuite c'est le RCD qui, on le sait, va donner lieu au CNDP, le CNDP qui ensuite va faire naître ce qu'on appelle aujourd'hui le M23, et on peut ajouter également l'AFC dedans. Donc vous pouvez voir qu'il y a tout un processus. Et toujours derrière ces différentes rébellions, il y a un nom qui revient régulièrement, c'est le nom d'un seul pays, c'est le Rwanda. Du temps du RCD, c'était le Rwanda. Du temps du CNDP avec le Kunda Batwari, c'était le Rwanda. Le M23, c'était le Rwanda. Et actuellement avec l'AFC également, on dit c'est pareil. Donc il y a un pays qui revient, on n'est pas en train d'exempter ou d'occulter d'autres pays également qui s'y sont mêlés, surtout par rapport à ce qui s'est passé à Kisangani. Mais depuis 1998, il y a une sorte d'acharnement du Rwanda contre la RDC. Et c'est qui, je voulais également parler de ça, pourquoi ? Parce qu'on se retrouve dans une situation où la victime d'hier est devenue le bourreau d'aujourd'hui. La victime d'hier, c'est le Rwanda, qui a eu à vivre des atrocités avec ce génocide, qui a causé près d'un million de morts. Et là, la RDC était là, aux côtés du Rwanda, pour essayer de le soutenir. Et cette victime d'hier est aujourd'hui devenue le bourreau des millions des Congolais qui sont tués, qui sont violés, qui sont massacrés, et tout dans un silence quand même assez coupable et assez complice. Voilà, de la communauté internationale, certes, il y a une responsabilité des autorités congolaises, mais pas que. Les mêmes communautés internationales qui avaient par exemple demandé à la RDC d'ouvrir ses frontières pour accueillir les FDLR, aujourd'hui c'est la même communauté internationale aujourd'hui qui est en train de taper sur la RDC pour lui dire il faut combattre les FDLR. On veut bien, mais on le fera, à mon avis, je ne parle pas au nom du gouvernement, la RDC ne peut pas le faire seule. Il a besoin de ce soutien de la communauté internationale. Malheureusement, avec la MONUSCO, on a vu qu'il y avait quand même de limites et qu'on n'a pas réussi, peut-être selon les derniers rapports, à arriver à mettre un terme aux activités de FDLR.
Madame Élisée Odia, Oui, justement, dans quelle mesure cette initiative qui consiste à organiser des manifestations commémoratives du génocide congolais pourrait-elle interpeller la communauté internationale sur ce qui se passe dans l'est de la RDC?
Mais déjà, ils ont été interpellés. Vous avez parlé de M. Bruno Marquis qui était là, qui a réaffirmé la volonté de la communauté internationale d'aider, de soutenir la RDC dans sa quête de justice. Et ça, c'est déjà un pas. Donc, on avait besoin. Et cette commémoration, au-delà de symboles, c'est un moyen aussi d'interpeller cette communauté internationale, de dire, écoutez, ne détournez pas le regard quand même. Il y a des millions de morts ici. On entend les gens soutenir la Palestine. On entend les gens soutenir, je ne sais pas moi, telle population. Mais nous, ça dure depuis près de 30 ans. Il ne faut pas, au nom du génocide rwandais que nous tous avions eu à décrier, qu'on puisse sacrifier les Congolais, la population congolaise. Non, la population congolaise a droit aussi à la sécurité. Donc je crois que la commémoration de ce 2 août, la deuxième du genre, peut servir pour interpeller d'abord en interne et la communauté internationale, parce qu'ils étaient là, il y avait des délégations qui sont venues là, et j'espère qu'ils vont repercuter, parce qu'il y a eu des témoignages frappants, quand une petite fille qui, à l'époque de la guerre de 6 jours, par exemple, témoigne aujourd'hui qu'elle n'avait que 9 ans, et qu'à 9 ans, elle s'est vue amputée de ses deux jambes, et qu'à la fin, elle se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Que j'ai fait pour que des inconnus qui ne sont même pas de mon pays, c'est-à-dire le Rwanda et l'Ouganda, puissent venir s'affronter sur notre sol et me laisser ainsi. Donc, ça interpelle. Il y a des victimes, il y a des survivants et on espère que la RDC, moi en tant que Congolais, journaliste, mais on espère que ce cri va être entendu. Et pour terminer aussi, j'ai été juste une fausse note, c'est dire cette commémoration est faite de manière un peu disparate. Vous avez tel fait la commémoration dans son coin, le gouvernement était ici à Kisangani, il y a certains cadres, leaders de certains partis politiques qui étaient dans leur coin, les acteurs de la société civile étaient aussi dans leur coin. Moi je crois qu'il y aura aussi, il y a moyen de faire en sorte que peut-être lors de la prochaine commémoration, qu'on sente un Congo uni. Parce que là, les gens qui sont bombardés, quand on bombarde la population congolaise ou on bombarde ces personnes, on ne pose pas la question, tu es de quel parti politique, tu es de quelle ethnie. C'est-à-dire, les armes, là, on ne pose pas toutes ces questions. Donc, il est temps qu'il y ait une synergie autour de cette commémoration. Un message fort à cette communauté internationale. Écoutez, par rapport à notre pays, nous sommes unis, il n'y a pas opposition, il n'y a pas majorité,
merci.
Il n'y a pas société civile, il y a juste le Congo qui veut parler d'une seule voix et qui veut réclamer justice et la cessation de toute hostilité.
Merci Abdourahmane Dia. Peut-on espérer qu'un jour le génocide congolais pourrait être reconnu mondialement, à l'instar notamment du génocide juif, du génocide rwandais, du génocide arménien?
Guy, je pense qu'il faut d'abord se battre pour que la communauté internationale puisse reconnaître cela comme un génocide et puisse utiliser le terme génocide. Et je pense que c'est une bataille politique et diplomatique que les Congolais doivent mener. Et je suis entièrement d'accord avec Madame Élisée quand elle dit que je pense qu'il n'y a pas l'attention qu'il faut sur ces crises, ces drames qui, pas seulement en RDC, mais dans tout le continent, souvent les conflits qui engendrent des milliers et des milliers de morts n'ont pas peut-être l'attention, la couverture médiatique qu'il faut, et ça relance un peu le débat de l'importance d'avoir des médias africains forts. Les occidentaux ont leurs médias, certes ils font le boulot, mais je pense que si on avait des médias très forts à l'image de CNN en Afrique, peut-être que ces médias africains seraient mieux outillé pour exposer tous ces problèmes et attirer l'attention de la communauté internationale. Mais je pense qu'il faut pas relâcher. Maintenant, ce que je voulais aussi souligner, je pense qu'il faut saluer ce geste de l'importance d'honorer les victimes, hein, quels que soient les conflits, de ne pas oublier l'histoire et de ne pas banaliser, en fait, parce que c'est vrai qu'on finit par être blasé avec tous les conflits que nous vivons. Je pense qu'il est important que les autorités dans nos pays puissent commémorer les victimes des conflits, comme on le fait ici aux États-Unis. La guerre civile, c'était il y a plus de 160 ans. Les victimes, en tout cas ce qu'ils considèrent comme les héros, sont toujours honorées. Et je pense qu'il faut que nous, en Afrique aussi, on célèbre, pour ne pas dire, en tout cas qu'on commémore et qu'on dise à tout le monde qu'on n'oublie pas. C'est peut-être à ce niveau que le reste du monde pourra suivre et commencer peut-être à s'intéresser un peu plus à ce qui se passe chez nous en Afrique. Cela dit, il y a le débat aussi sur la réparation, mais surtout sur les leçons à tirer pour que l'histoire ne se répète pas. C'est un peu mon commentaire sur cette question.
Merci, Maître Frédéric Kouamba. Au-delà de la commémoration de ces génocides, quel est le message que la RDC envoie au monde?
Oui, Monsieur Mathieu, je commence d'abord par rendre hommage à toutes les victimes de ces guerres, parce qu'il y en a eu plusieurs et jusqu'à aujourd'hui, aux femmes violées, violentées au courant de ces décennies, ces trois décennies. Et je pense que c'est un message fort, comme mes deux prédécesseurs viennent de le dire, parce que si on se tait, personne ne nous entendra. Il y a des années où la communauté internationale ne pouvait pas reconnaître publiquement l'implication du Rwanda dans la guerre de l'Est. Mais aujourd'hui, c'est au regard des efforts médiatiques, la communication des dirigeants congolais et de la société civile que nous sommes, qui a fait que la communauté internationale s'est pliée. Moi, je pense qu'avec ce genre de journée, c'est une manière également de continuer à pousser. Pousser vers où? C'est pousser jusqu'à ce que le Congo va retrouver sa souveraineté dans ses frontières, c'est-à-dire que dans les quatre coins du pays, lorsque le Congo ou les Congolais vivra sans ces concepts de guerre, d'agression ou de viol utilisés souvent comme arme de guerre en RDC. Donc, l'unique manière de pousser la communauté internationale ainsi que nos communautés à ne pas oublier ce qui s'est passé ou ce qui se passe, c'est de faire ça. Mais le petit souci que j'ai, c'est au niveau du concept qui est utilisé depuis une année, des commémorations. Parce que je me posais des questions si on peut commémorer des faits qui sont en train de se passer. Moi, je pense que c'est non. Et le génocide ici, quand on le prend, c'est par rapport aussi à la richesse qui est en train d'être pillée. En ce moment où je vous parle, nous avons toujours des informations sur des tueries qui continuent. Donc moi, je pense que le concept commémoration n'est pas bien placé, parce qu'on ne peut commémorer que pour les souvenirs de quelque chose ou penser à ce qui est déjà passé, mais jamais commémorer pendant que nous sommes encore en guerre, pendant que nous nous battons pour libérer le pays. On ne commémore pas, on peut choisir d'autres concepts. Personnellement, moi, je pense que si on commémore quel génocide, de quelle date, par exemple dans le passé, il y en a eu plusieurs. Alors, des massacres, il y en a eu, mais hier, avant-hier, on continue à apprendre qu'il y a des Congolais qui continuent à mourir sur leur sol. Donc la commémoration, le concept n'est pas très bien choisi. On peut choisir pour lancer le message qui soit fort, oui, mais le concept, je le trouve pas adapté, parce que...
Allô, apparemment il est parti. On en profite pour prendre une petite pause en écoutant « J'ai besoin d'un peu d'amour » de Gilles Iglesias, et on revient juste après.
Chaque jour, à chaque instant, tout recommence. Dans mon cœur, c'est à nouveau la folle ronde. À l'amour, c'est mon soleil, mon espérance, la plus belle chose au monde. J'ai l'amour à pleurer de cœur, rien n'enflamme. Un regard de fait chanter ou me déchirer. Je sais que je pourrais donner mon âme. simplement pour elle sourire. J'ai besoin d'un bel amour pour que chante ma guitare, pour oublier tout ce qui nous sépare. Nuit et jour, j'ai besoin d'un peu d'amour. J'ai besoin jour après jour de sentir une présente comme un enfant perdu et sans défense. Nuit et jour, j'ai besoin d'un peu d'amour. Sans amour, je ne suis rien, mon ciel se voile. Mon printemps a brusquement des airs d'automne. Et je crois que j'ai perdu ma bonne étoile. Que la chance m'a abandonné. Je l'amour a fait des cœurs et rien en flamme. Un regard me fait chanter ou me déchirer. Et je sais que je pourrais donner mon âme simplement pour un sourire. J'ai besoin d'un bel amour pour que chante ma guitare, pour oublier tout ce qui nous sépare. Nuit et jour, j'ai besoin d'un peu d'amour. J'ai besoin jour après jour de sentir une présence comme un enfant perdu et sans défense. Nuit et jour, j'ai besoin d'un peu d'amour. J'ai besoin d'un peu d'amour.
C'était « J'ai besoin d'un peu d'amour » avec Julio Iglesias. Je rappelle que nous avons dans cette émission Madame Élisée Odiale, journaliste indépendante, Maître Frédéric Kwamba, membre de la société civile, il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe, il est également membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel, et en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis, Abdourahmane Dia, il est journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. Le consortium Le Congo n'est pas à vendre, CNPAV en sigle, affirme avoir monitoré une dizaine de cas de corruption ayant coûté environ $1 milliard américains au trésor public entre janvier et juin dernier. Jimmy Kandé, membre de cette structure qui était invité à Radio Okapi mercredi dernier, encourage les autorités à décourager les actes de corruption qui entravent le développement de la RDC. Il demande aux acteurs de la société civile de s'impliquer dans la lutte contre ces fléaux qui gangrènent la société congolaise. Nous appelons les autorités à prendre leurs responsabilités et exiger à ce que les comptes soient rendus aux Congolais, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre avec des cas de corruption qui restent impunis, a-t-il ajouté. Maître Frédéric Kwamba, est-ce que vous êtes là? Maître Frédéric Kwamba,
vous êtes là? Je suis là, monsieur Dimati.
Voilà, vous avez souhaité nous parler de ces sujets. On vous écoute.
Oui, c'est un sujet qui m'a vraiment pris parce que il s'agit de la fragilité de notre pouvoir judiciaire. Et vous savez que chaque chef d'État qui est passé a eu à décrier ou à dire un mot sur notre pouvoir judiciaire en sa manière. Mais quand vous prenez leur déception dans les mots, ça dit presque la même chose. Donc il y a des scandales et je félicite cette ONG qui a fait un travail, qui a réussi à porter ça auprès des médias et de tout le monde et auprès des autorités. Des scandales en scandale. Ils ont parlé de ces 7 millions à peu près sur les questions de la carte d'identité, carte d'identité où on a eu un ministre de l'Intérieur qui a aussi beaucoup parlé sur ça et promis que tout le monde allait en avoir. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des cas aussi plus antérieurs de la question du RAM que tout le monde connaît, qui a fait du bruit de la même manière. Et puis les scandales ici sur la question de lampadaires et des forages d'eau. Alors, au regard de tout ceci, le travail de cette ONG, oui, les bruits que les médias pourront faire, oui. Mais nous savons que la loi elle-même, elle donne au procureur général la plénitude de l'action publique. Donc, le procureur général doit être à la recherche de tous ceux qui commettent des infractions pour les traîner devant un tribunal et exécuter les sanctions lorsqu'en cas de condamnation. Mais que font nos procureurs généraux? ils ont les mains liées, parce que avant que cette ONG ne se prononce, ne lance et ne communique sur le semestre ici, les procureurs avaient des informations. Ça faisait bruit partout, à la cité, dans les médias, dans les réseaux sociaux. Donc personne ne dirait que je n'ai pas entendu, je n'ai pas eu écho. Donc la justice avait eu écho. Mais comment est-ce que les procureurs n'agissent pas et uniquement parce que, je l'ai dit, il a les mains liées. Il a les mains liées par quoi? C'est parce que en RDC, au moment où on élabore des textes, les textes sont déjà taillés à la costume des malfaiteurs. Et vous allez constater que le procureur général qui doit faire du boulot lorsqu'il entend ce bruit est soumis à une autre procédure de solliciter l'autorisation de poursuivre des gens qui sont déjà cités. Et le procureur est bloqué uniquement parce que le pouvoir judiciaire dépendra à ce moment-là du pouvoir exécutif. D'où nos textes nous poussent à la violation du principe sacré d'un état de droit ou d'un état démocratique qui est le principe de la séparation des pouvoirs. Ou un pouvoir doit arrêter un autre ou avoir la capacité d'arrêter un autre. Chez nous, l'exécutif est au-dessus de tous les autres pouvoirs parce que quand l'exécutif vous dit, vous magistrat, avant de poursuivre X personnes, vous devez me demander avant l'autorisation. Mais cette solidarité entre l'exécutif, ça les protège contre les poursuites. Et ce n'est pas parce que cette ONG a présenté ceci qu'il y aura une suite. La suite ne peut avoir lieu que si on laisse aux procureurs les mains libres de pouvoir agir. Vous trouvez que chez nous, ce qui est encore plus grave, ce sont dans nos textes, on donne au ministre de la Justice des pouvoirs dans l'appareil judiciaire, ce qui n'est pas normal. L'article 151 de la Constitution est clair. Le ministre de la Justice est membre du gouvernement. Il siège au gouvernement. Il est membre de l'exécutif. Mais on lui donne le pouvoir d'injonction sur les parquets. Maintenant, dites-moi, si l'exécutif veut se protéger, on veut protéger ses membres, qu'est-ce que le procureur fait? Il n'a pas de pouvoir, ni la loi ne le reconnaît. Donc, les petits messieurs, les petits citoyens ici, qui commettent des faux faits, ça et là, les procureurs sont très musclés, parce que l'exécutif n'intervient pas. Donc, ce que nous réclamons, pour que des cas qui sont révélés comme ça, pour savoir ici, c'est de libérer les pouvoirs judiciaires.
Merci, Madame Élisée Oudia. Justement, comment peut-on corriger ce problème fondamental qui venait d'être relevé ici par Maître Frédéric Kouamba, le fait que le procureur général soit inféodé au pouvoir exécutif, parce que pour initier des poursuites, il doit solliciter l'autorisation, n'est-ce pas, de l'exécutif?
Que le procureur puisse solliciter l'autorisation, officiellement, je ne sais pas, peut-être officieusement, parce qu'officiellement, sur papier, hein, l'un de moi a quand même l'idée de remettre en question ce qui vient d'être dit par Maître Kouamba, ce qu'il dit, c'est ce qui est juste, on est sur papier, on nous a toujours fait croire et on nous fait croire que la justice, elle est indépendante, la justice, elle n'est pas inféodée, et aussi parce que récemment, on a vu certains procureurs se permettre aussi une certaine liberté. Je ne sais pas si c'était juste les apparences ou ils avaient reçu des injonctions. Donc la justice, elle est là, elle doit faire son travail. Chacun doit jouer sa partition. Les années antérieures, on avait du mal même à chiffrer, à quantifier les détournements dans notre pays et à énumérer peut-être les secteurs, les domaines où il y a eu corruption. Aujourd'hui, il y a eu une avancée parce qu'aujourd'hui, non seulement avec, par exemple, comme on n'est pas à vendre, on est arrivé à quantifier, on parle de près d'un milliard de dollars qui auraient été détournés. Et on a cité, énuméré des secteurs dans lesquels il y a eu ou il peut y avoir eu ce probable détournement. Alors, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on a suivi ça ne pas, mais beaucoup d'autres structures reviennent quand même sur le travail qui a été fait par l'inspection générale de finances qui lui-même dépend de la présidence de la République. Donc, de ce côté-là, il y a eu une évolution. L'État a voulu lui-même se contrôler aussi en essayant d'activer
cette inspection générale des finances, même si on se retrouve effectivement que lui aussi il est limité parce qu'il ne peut pas aller au-delà. Donc il y a la dénonciation qui est faite, qui les langue ce délit. Il y a des condamnations qui sont faites, mais maintenant c'est que tous espèrent, ce sont des sanctions, et ces sanctions-là, évidemment, ça doit passer par la justice qui, enfin, on l'espère, va se réveiller, et parce que ça a un pouvoir aussi, refuser également cette inféodation et faire son travail en toute liberté, là où il y a injonction, inféodation, ils doivent se lever et dénoncer cela. C'est ce que nous, à notre niveau, peut-être en tant que journalistes, nous essayons de faire aussi. Parce que quand on révèle aussi ces détournements-là, c'est pas facile être journaliste en RDC et parler des cas de corruption, de cas de détournement, parce qu'on sait ce qui vient par la suite. Donc il faut à un certain moment que les magistrats, que les procureurs puissent faire preuve de beaucoup de courage et se dire, on veut travailler pour le bien du pays. Donc par rapport à ça, puisque tel fait a été dénoncé, pourquoi ne pas m'auto-saisir de ça pour suivre de près, et comme s'il y a injonction extérieure, mais que j'ai eu le courage de dire qu'il y a eu injonction, et c'est comme ça qu'on va continuer. Tant que le magistrat lui-même sera là en train de se dire, oui, il y a eu injonction, donc je me plie, comprenez qu'on ne va pas avancer.
Merci Abdourahmane Diagne, nous allons finir cette émission avec vous. En 5 mois, les trésors publics perdent 1 milliard de dollars américains du fait de la corruption. Qu'est-ce que cela peut signifier pour un pays comme la RDC, un pays en guerre, un pays qui fait face à une crise multiforme?
Malheureusement, on constate dans nos pays riches en minerais, pays producteurs de pétrole, que ce soit le Nigeria ou ailleurs, il y a toujours ce débat sur les détournements de fonds, la corruption. Et au Sénégal, qui est devenu pays producteur, dans la période de prospection aussi, il y avait tout un débat sur la transparence dans le processus. Et donc c'est malheureusement des débats qui existent, et je pense que c'est là qu'il faut saluer un peu le travail de veille de la société civile, mais également de la presse. Je sais que c'est pas facile, effectivement, comme elle l'a dit, mais ce débat également sur l'inféodation des parquets au gouvernement ou au ministère de la justice est une réalité dans beaucoup de nos pays, et c'est malheureusement le système, je sais pas si c'est le système francophone, si on peut le dire ainsi ou pas, mais c'est un fait. Je pense qu'il faut que les sociétés civiles, nos opinions publiques puissent pousser à plus d'indépendance de la justice, et qu'ils continuent d'exposer des cas présumés de corruption, bien évidemment bien documentés et tout. Et peut-être que ça peut pousser la justice à réagir. On a vu des cas où la justice était obligée d'agir à cause de la polémique, ou en tout cas des faits qui étaient presque irréfutables, qui ont poussé en fait les autorités à engager des poursuites. Et je pense que c'est ce qu'il faut continuer à faire, renforcer la société civile, que l'opinion publique africaine s'implique dans des cas de corruption, ou en tout cas dans la lutte pour la transparence dans la gestion des affaires publiques. Plus on a une société civile forte, une opinion publique forte, une presse forte, je pense que ça peut faire bouger les lignes, si on peut le dire ainsi.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer, Madame Élisée Odia, Monsieur Abdourahmane Dia et Maître Frédéric Kwamba. Merci également à Jean-Noël Mokondo et à Paul Badianyama qui étaient à la technique, avec la participation de Christian Lomombe, Didier Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision des PL équipés La Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Jardin de mon cœur des Roxy Kimpaka dans l'orchestre Shockstar, et on se retrouve le samedi prochain.